On est dans une série sur le livre de la Genèse. Nous en sommes rendus, comme disent les Canadiens, au chapitre 39 de la Genèse, premier livre de la Bible. Joseph, arrivé en Égypte, avait donc été acheté aux Ismaélites qui l'avaient conduit là-bas, par Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Alors, Joseph obtint la faveur de son maître, qu'il attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Joseph était un bel homme, ayant un beau visage. Après ces événements, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « couche avec moi ». Mais il refusa et dit à la femme de son maître « mon maître ne me demande compte de rien dans la maison, il m'a confié tous ses biens, lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici et il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je contre Dieu ?» Jour après jour, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher à côté d'elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors elle l'agrippa par son vêtement en disant « couche avec moi », mais il lui abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuit dehors. Quand elle vit qu'il s'était enfui dehors en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques. Puis elle leur dit « voyez cela, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous ». Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. Quand il a entendu que je poussais des cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'au retour de son mari à la maison. Alors, elle lui raconta la même histoire. Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme qui lui disait « voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison. Nous allons prier. Seigneur, ta parole est déroutante parfois, mais elle nous parle de vie d'homme et de femme. Et Seigneur, nous te prions pour que ce matin, elle nous parle, qu'elle parle à nos vies et qu'elle transforme nos vies. Notre relation avec toi, notre relation avec les autres, notre relation avec nous-mêmes. Seigneur, merci pour ta parole vivante qui ne revient pas à toi sans effet. Dispose nos cœurs à la recevoir, là où nous sommes et là où nous en sommes dans notre cheminement avec toi. Amen. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce matin, qui sont peut-être des visiteurs. Donc nous faisons, comme je l'ai déjà dit, une série sur le premier livre de la Bible, la Genèse. Et la semaine dernière, dimanche dernier, nous avions laissé Joseph, le fils de Jacob, le petit-fils d'Isaac et l'arrière-petit-fils d'Abraham, avec sa tunique multicolore que vous voyez là, c'est le dernier dessin sous prédication. Il y a la tunique multicolore de Joseph. Enfin, il était sans sa tunique, puisque cette tunique, elle était tachée de sang et elle est revenue auprès de son père Jacob comme un témoignage des frères qu'il aurait été tué. Mais en fait, il a été vendu à des caravaniers et il arrive en Égypte et il semble qu'il s'est bien installé puisqu'il est dans la maison de ce haut fonctionnaire, Potiphar, chef de l'armée. Et puis là, Joseph vit une histoire un petit peu étrange, un peu torride, avec cette femme, la femme de Potiphar, qui le harcèle. Et on se demande comment on pourrait parler de ce texte, de cette histoire, sous quel angle le prendre. Alors, on pourrait dire que Genèse 39, le récit que nous avons lu, c'est une histoire sur la tentation. Comment résister à la tentation ? Et je ne sais pas si vous l'avez noté, mais dans le chapitre, enfin le récit que nous venons de lire, il y a 4 fois le mot fuir. Ce serait un bon conseil hein, par rapport à la tentation. Fuir la tentation, comme Joseph l'a fait. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'ont retenu Les artistes, pour parler de cette histoire, regardez, voilà, je ne sais pas qui c'est, mais voilà, c'est la femme de Potiphar et puis Joseph qui s'enfuit avec un gros plan sur la tunique, le vêtement que l'on arrache. Et puis il y a d'autres petits croquis là, parce qu'on est en Égypte, hein, ils ont un bon profil égyptien, et puis là, ça ressemble à un hiéroglyphe presque. Le profil égyptien. Et puis, j'ai gardé le meilleur pour la fin avec Liz Taylor, qui est un bellâtre, là, qui ressemble à tout sauf à un égyptien, et qui fuit. Mais je ne pense pas que ça soit le thème du passage, en fait. Ce n'est pas comment fuir ou comment résister à la tentation en fuyant. Il me semble que le thème du passage, ce serait plutôt comment vivre dans un monde injuste. Comment réagir par rapport à l'injustice? Le thème du passage, c'est le Calimero. Vous vous souvenez de Calimero? J'ai pas trouvé une image de Calimero qui dit « c'est trop injuste ». It's not fair. C'est pas juste ce qui arrive à Joseph. Déjà, il a été vendu par ses frères. Il a été jeté par ses frères dans une citerne, et puis vendu à des esclavagistes, alors qu'il n'avait rien fait. Si, il avait été un petit peu arrogant, il avait raconté à ses frères des rêves qu'il avait eus, et c'était pas vraiment fut-fut de sa part, comme on dit. Mais quand même, ça valait pas la haine de ses frères. C'est injuste. Et maintenant qu'il commence à s'en sortir dans la vie, il lui arrive une histoire pas possible. Il y a une femme haut placée, qui a du pouvoir quand même, qui jette son dévolu sur lui le beau gosse, le BG, venu du désert, mais il résiste aux assauts répétés de cette femme, et on l'accuse d'avoir abusé d'elle, elle l'accuse d'avoir abusé d'elle. Pire, Monsieur Potiphar qui le tenait en grande estime, au lieu de chercher un petit peu la vérité, se range d'emblée du côté de sa femme, et l'envoie en prison. C'est trop injuste. Et on n'a pas lu le chapitre 40, mais le chapitre 40, il est en prison, et là, il y a deux hauts fonctionnaires de Potiphar, mais Pharaon, qui sont là aussi en prison. Ça arrive souvent pour les hauts fonctionnaires. Et Joseph leur raconte des rêves qu'ils ont eus, interprète les rêves qu'ils ont eus, et l'un d'eux est libéré suite au rêve qu'il avait fait, et Joseph l'avait interprété de la belle façon, de la bonne façon. Et cet homme, ce haut fonctionnaire qui sort de prison, le texte nous dit qu'il oublie Joseph. Il aurait pu revenir voir Joseph et lui dire « Tu sais, l'interprétation était la bonne, je vais parler à Pharaon pour toi, pour que tu puisses... » Non, il l'oublie. Le texte le dit très clairement, et vous l'avez, il l'oublia. C'est trop injuste. Et il semble que Joseph vit une situation successive, en fait des situations successives d'injustice. Il semble être le spécialiste de la chose, et peut-être que ce texte aurait quelque chose à nous dire sur comment réagir face à l'injustice. Alors, on pourrait essayer de savoir ce que veut dire d'abord injustice. Quand Calimero nous dit « c'est trop injuste », qu'est-ce qu'il veut dire exactement ? Peut-être qu'on pourrait atteindre un petit peu la définition du mot de l'injustice avec le mot « oublié » dont nous venons de parler. Subir une injustice, c'est être oublié au fond d'une prison alors que l'on est innocent. Mais il y a dans la notion d'injustice une notion d'oubli, l'oubli de retour par rapport à ce qui pourrait être attendu. C'est injuste quand on ne reçoit pas en retour ce que l'on est en droit d'attendre. Ce que l'on est en droit d'attendre selon le cours normal des choses. L'injustice, c'est quand on ne reçoit pas ce qu'on est en droit d'attendre du cours normal des choses. Mais qu'est-ce qui est normal? Et qu'est-ce qui détermine le cours normal des choses? C'est pas facile, hein? Quand on vous parle d'injustice, à quoi pensez-vous? Quand on vous parle d'une situation d'injustice, à quoi pensez-vous dans votre vie? J'ai lu un article intéressant sur l'éducation des enfants par rapport à l'injustice. Enfin, la relation des enfants par rapport à l'injustice. Et c'est très éclairant parce que les enfants sont très sensibles à l'injustice. Et puis aussi, d'autre part, parce que nous sommes parfois, souvent, tout le temps, comme des petits-enfants aussi par rapport à l'injustice. Et cet article nous signale le premier niveau d'injustice. Et le premier niveau d'injustice, c'est quand l'enfant dit « Je veux pas, c'est pas juste d'aller au lit. Je veux pas aller au lit, c'est pas juste. » Est-ce que c'est vraiment une injustice qu'il aille au lit? Mais non, c'est simplement l'obéissance. Il y a un détournement du mot injuste. Il ne veut juste pas obéir. Il crie à l'injustice, mais ce n'est pas de l'injustice. Si les parents lui disent d'aller dormir, c'est pour son bien. Sinon, le lendemain, il va être fatigué et fatigant pour tout le monde. Je veux pas aller au lit. C'est pas juste que j'aille au lit. Et cette notion d'injustice, on le retrouve un petit peu parfois chez les adultes, dans le monde des adultes. Il y a pas mal de choses que l'on trouve injustes, mais qui ne sont pas vraiment injustes. Par exemple, payer des impôts. Oh, c'est trop injuste. La taxe d'habitation est injuste. Pourquoi la défendre? Je ne sais pas où j'ai trouvé ça. Il n'y a pas de parti politique derrière. Enfin, j'en sais rien. Mais... Ou payer nos contraventions. Comme j'ai dû en payer une il y a 2 semaines parce que je me suis fait flasher entre Nice et Cannes. Alors qu'on ne sait pas sur l'autoroute, qu'on ne sait pas si c'est 110 ou 90, ça change tout le temps. Et je me suis entendu dire au fond de moi, c'est trop injuste. Mais non, c'est pas de l'injustice, c'est de l'obéissance. Le flash, il m'a eu. Deuxième niveau d'injustice, quand l'enfant dit, il a plus de gâteaux que moi. Et vous connaissez les enfants, ils sont capables de mesurer au millimètre près la part de gâteau. Au centimètre près, on va dire. Et pour être sûr de ne pas être défavorisé, les enfants comparent en permanence. Et pour eux, ce n'est pas juste de ne pas avoir strictement la même chose que leurs frères, leurs sœurs ou leurs copains. Mais là, il y a une confusion aussi entre égalité et injustice ou justice. Et au niveau des enfants, ils vont apprendre au cours qu'ils ne sont pas obligés d'avoir exactement la même chose que leurs frères et sœurs, mais il reste quelque chose au niveau du monde adulte, encore une fois, là aussi. Il y a un prêtre qui s'appelle Monsieur Patrice Gourier, qui est psychologue, qui parle d'aujourd'hui de l'intolérance à la frustration. Il n'y a pas que l'intolérance au gluten, mais il y a l'intolérance à la frustration qui est, dit-il, une marque de notre société. Nous sommes obsédés par la recherche du bonheur, ou plutôt du bien-être personnel, et on crie à l'injustice quand nos désirs ne sont pas satisfaits. Et quand il parle de frustration, il me semble que le père Gourier nous ramène un peu aux enfants, à ces enfants qui comparent leur part de gâteau. Notre part du gâteau. L'intolérance à la frustration. Ce n'est pas de l'injustice, c'est de l'intolérance à la frustration. Alors, troisième niveau, il y a des situations objectives qui sont injustes. Et là, c'est quand l'enfant dirait, par exemple, j'ai été puni et je n'ai rien fait. Et c'est vrai. Et c'est injuste. Et là, l'enfant parle du véritable sens de la justice, comme dit Luigi, je cite, 4 ans. L'injustice, c'est quand il se passe le contraire de ce qui doit arriver. Et ce sentiment est très fort et très présent dans la vie. Pourquoi être licencié brutalement après s'être tant investi dans le travail? Pourquoi cette personne-ci qui avait encore tant à donner tombe malade? Et ce sentiment d'injustice est renforcé par le fait, d'une part, qu'on se sente complètement impuissant, et de l'autre, aussi parce que le sens de cette épreuve, de cette injustice, nous échappe complètement. L'impuissance et le manque de sens. On ne comprend pas pourquoi ça tombe sur nous maintenant, alors que nous n'avons rien fait de particulier qui mériterait cela. Et ce sentiment d'injustice est décuplé quand c'est en série. Quand ce sont des coups durs en série, quand ce sont des injustices en série. Comme pour Joseph, une série de coups durs, une série de coups du sort, une série de coups bas. Il semblait que tout allait bien pour lui et tout déraille. Ce n'est pas juste. Et puis, il y a un dernier niveau d'injustice. Quand l'enfant, devant une catastrophe, là on voit une famille dont la maison est emportée par le courant, qui dit là devant sa télé, c'est pas juste ce qui leur arrive. Quand la situation autour de nous ne correspond pas à l'idéal que nous pourrions avoir pour le monde, on ressent l'injustice lorsqu'il existe un décalage entre ce que nous croyons bien et ce que nous voyons dans la réalité. Et là, nous crions à l'injustice. Et nous nous mobilisons pour des causes que nous croyons justes. Et c'est bien. On se mobilise pour des causes que nous croyons justes dans ce monde qui ne l'est pas. Et on peut penser à Martin Luther King qui s'est battu pour les droits civiques dans son pays et qui mettait le doigt sur un élément important de ce combat contre l'injustice, celui de la solidarité humaine. Regardez ce qu'il dit. Une injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout ailleurs. Car nous sommes tous pris dans un tissu de relations mutuelles. Une solidarité contre l'injustice qui est à vivre encore aujourd'hui. Encore et encore. Alors il y a des combats contre l'injustice et pour la justice, mais le monde est toujours injuste. Et c'est peut-être par là qu'il aurait fallu commencer, par ce monde injuste. Il y a Bill Gates qui le disait, il aime dire des choses à des étudiants pour les remises de diplômes. Et voilà ce qu'il a dit, la vie est injuste, life is not fair. Et puis il a ajouté, get used to it. C'est-à-dire, il faut prendre l'habitude de cela. Il faut, comment je l'ai traduit, parce que mieux vaut s'y habituer. Voilà, c'est mieux ça. La vie est injuste, mieux vaut s'y habituer. Alors on ne sait pas si Bill Gates est la meilleure personne pour parler de l'injustice, parce qu'il n'a pas vécu des masses, mais c'est une famille avec sa femme qui font pas mal de choses quand même pour lutter contre l'injustice et pour éradiquer des maladies dans le monde. Mais ce qu'il ne dit pas, Bill Gates, c'est comment réagir par rapport à cette injustice, comment vivre dans ce monde injuste. Et là, on revient vers Joseph, qui est un être vraiment intéressant parce que il est un être éminemment, on va dire, spirituel. Abraham, Isaac, Jacob, on voyait surtout Dieu à l'œuvre, hein, Dieu qui se bat avec Jacob, Dieu qui se révèle à Jacob. Abraham est pas mal aussi, c'est un homme de foi, mais quand même, il y a cet épisode avec Sarah, il est faible. Et puis Isaac est transparent, enfin, il faut le dire. Mais Jacob est le premier à manifester quelque chose et qui répond peut-être à ce qui est dit dans Genèse 18-19, donc 20 chapitres avant, qui parle d'un descendant pour Abraham qui ferait ce qui est juste et droit. Et Joseph semble être le premier à manifester quelque chose de vraiment solide. D'ailleurs, on l'a comparé à ce cœur de chair de Jérémie dont nous parle le prophète Jérémie bien plus tard, hein. Le cœur nouveau pour une alliance nouvelle. Il semble que Joseph soit quelqu'un avec ce cœur renouvelé. Et c'est la seule personne, c'est la première personne dans la Bible, jusque-là, dans la Genèse, que l'on dit. Ah, j'ai oublié un vrai. Et c'est le pharaon qui le dit, celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu. Joseph, ah oui, c'est quelqu'un qui est animé par quelque chose de différent. En tout cas, pour que ça soit le pharaon qui le dise, il faut que Joseph ait un témoignage quand même vachement puissant, spirituel. Un être spirituel avec des réponses spirituelles pour vivre dans ce monde injuste. Et cette première réponse, ce serait à comment réagir dans ce monde injuste ou face à une injustice, c'est de rester centré sur Dieu. Malgré tout, ce qui est remarquable avec Joseph, c'est que dans ces situations d'injustice, il ne sort pas Dieu de sa vie. Il ne dit pas « si c'est comme ça, je vais faire à ma manière ». Non, il reste centré sur lui au niveau de son éthique, de sa morale, dans ce qu'il fait. Alors que la femme de Potiphar cherche à le séduire, il répond « ferais-je cela contre mon Dieu ?» Il vit une situation d'injustice, déjà avec ses frères, etc. Et puis cette accusation, enfin ça viendra plus tard, mais cette tentation. Mais il n'exclut pas Dieu de sa vie, au contraire, il reste centré sur lui, son éthique reste centrée sur Dieu. Il y aurait dans ces situations d'injustice, et pour nous, ça peut nous arriver, la tentation d'envoyer tout en l'air. Et de ne plus chercher à faire ce qui est juste. D'envoyer en l'air toute son éthique chrétienne, de répondre à la violence par la violence, par exemple, de répondre au mensonge par la calomnie, et donc de répondre à l'injustice par l'injustice. Joseph ne le fait pas, sa vie reste centrée sur Dieu, son éthique reste centrée sur Dieu. Et d'autres ont suivi son exemple à l'injustice des droits civiques bafoués pour les Noirs américains. Martin Luther King a répondu par la non-violence. Une non-violence déterminée, mais une non-violence quand même. Et puis, deuxième élément, après cette première réaction face à une situation injuste, c'est garder confiance en la souveraineté de Dieu. Alors, quand on parle de la souveraineté de Dieu, ça veut dire que Dieu est souverain. Mais ça ne veut pas dire qu'on parle de contrôle de Dieu ou de planification de Dieu. On ne parle pas d'un Dieu qui règle tout comme sur du papier à musique, mais on parle d'un Dieu qui reste présent dans la vie et qui vous accompagne. Et il y a une phrase qui revient souvent dans le récit, je pense que vous l'avez repérée, c'est « Dieu était avec lui ». Dieu était avec lui. Alors c'est le narrateur qui le met dans l'histoire pour bien montrer que Dieu se préoccupe de cette histoire de Joseph et de la réalisation de la promesse de Dieu, d'une bénédiction pour le monde entier à travers les patriarches. Mais on peut penser que Joseph lui-même a pensé à cette présence de Dieu dans sa vie et dans ses situations injustes. Il y a pensé, il a vu que dans ces situations injustes et difficiles à vivre, et que, bien que malgré tout, Dieu était avec lui en prison, dans sa prison, et qui lui donnait sa bénédiction, et que Dieu fait réussir partout où il va, même en prison, il réussit. Et c'est l'expression quand il est dit que Dieu fit prospérer la maison, par exemple, de Potiphar à travers Joseph, ou il lui fait réussir sa situation même en prison, que c'est quelque chose d'automatique. Non, ce n'est pas automatique. Joseph est là, et Joseph est avec Dieu, et Dieu est avec Joseph. Et il marche avec lui. Et c'est une bénédiction déjà de marcher avec Dieu, de pouvoir compter sur sa présence. Et on peut le dire aussi, même si on ne réussit pas tout ce que l'on entreprend, on sait que Dieu est présent dans notre vie, que Dieu est là, on le voit, on le perçoit à travers ce que j'aime appeler les clins d'œil de Dieu sur notre existence, les petits signes de piste de Dieu dans notre existence, que l'on voit avec les yeux de la foi. Et je peux prendre pour moi, et vous pouvez prendre pour vous, cette promesse que Dieu fait, que Jésus fait à ses disciples qui ne sont pas très certains, pas très confiants dans leur possibilité d'être des témoins. Il leur dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de ce monde qui est injuste. » Faire confiance en la souveraineté de Dieu, garder confiance en la souveraineté de Dieu. Voilà une réponse à une situation injuste. Et puis, autre réaction que Joseph nous montre, c'est de continuer à faire ce qui est juste. Et c'est un autre point tout à fait remarquable dans l'histoire de Joseph, c'est que même en situation injuste, il va chercher à faire le bien. Alors qu'il est en prison, il va se démener pour aider les autres prisonniers. C'est extraordinaire. Et celui-ci, le chef de la prison, lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison, et même la direction de la prison. Alors je fais peut-être un raccourci, mais je crois que l'on peut dire que Joseph va se battre pour un monde plus juste en prison. Il va chercher à améliorer, à rendre plus juste l'univers carcéral. En situation d'injustice, il continue à rechercher la justice, à faire le bien autour de lui. C'est que nous disait le père Gourier que j'ai cité tout à l'heure. Voilà, je cite, ouvrez les guillemets. « Pour répondre à l'injustice dans le monde et pour ne pas rester coincé dans l'amertume ou dans l'esprit de vengeance, se poser la question « Que puis-je faire de juste pour répondre à l'injuste ?» Merci à ce père pour cette phrase impeccable. Et je citerai aussi William Booth, le fondateur de l'armée du salut, dans ce monde injuste. Continuer à pratiquer la justice. Voilà ce qu'il dit, William Booth. Je me battrai tant que je verrai des enfants pleurer, souffrir, avoir faim. Je me battrai tant que des femmes seront opprimées. Je me battrai tant qu'il y aura un ivrogne à sauver, tant que les hommes seront en prison, n'en sortant que pour y entrer de nouveau. Tant qu'il y aura une âme seule, abandonnée, angoissée dans la nuit de ce monde moderne, jusqu'à ma dernière énergie, jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai et je me battrai encore. Ah, ça c'est du solide, c'est du costaud. En situation injuste, dans ce monde injuste, continuer à pratiquer la justice, se battre pour la justice. Et puis, un dernier point encore, comme si cela ne suffisait pas, mais je voulais quand même l'ajouter. Peut-être le point le plus difficile pour les hommes et les femmes du XXIe siècle, c'est de percevoir ces injustices comme des opportunités spirituelles pour grandir. Et là, c'est difficile pour nous de comprendre cela dans le sens étymologique du mot « comprendre », de les prendre pour soi. Parce que quand on vit des situations d'injustice, ce sont des moments extrêmement difficiles émotionnellement. On est ravagé. Mais en même temps, quand on lit le récit de Joseph, ça semble évident que là, en prison, en vivant l'injustice, il apprend sur lui, il apprend sur Dieu, il apprend dans sa relation avec Dieu ou sur sa relation avec Dieu, il apprend sur ce qui est prioritaire dans sa vie, sur comment vivre sa foi dans ce monde injuste, il l'apprend, Joseph. Et c'est, paraît-il, la même chose pour nous. De ces épreuves d'injustice que nous pouvons vivre, Jacques, dans sa parole, dans la parole de Dieu, nous parle d'occasions pour nous de nous rapprocher de Dieu. Et ce qui est difficile pour nous, c'est de reconnaître cela quand on est en plein milieu de l'injustice. Mais il faut savoir que Dieu ne nous demande pas non plus l'impossible. Il ne nous demande pas de garder toujours le sourire. Il ne nous demande pas de serrer les dents, il ne nous demande pas de ne jamais pleurer, il ne nous demande pas de jamais nous mettre en colère contre l'injustice, même il nous demande de nous mettre en colère. Il ne nous demande pas de rester stoïque, le christianisme n'est pas du stoïcisme, mais il s'agirait pour nous peut-être de reconnaître ce travail de Dieu a posteriori, de dire finalement cette épreuve, cette injustice que j'ai vécue m'a aidé à me rapprocher de Dieu, à faire le tri dans les priorités de ma vie. Cette épreuve a plutôt servi à me rapprocher de Dieu, de ce Dieu qui marche avec moi et qui m'accompagne dans des situations d'injustice qui sans lui seraient insupportables. J'invite plusieurs témoins à la barre pour parler des témoins de l'injustice. D'abord Corrie ten Boom, l'injustice des camps de concentration en 1943 parce que sa famille avait caché des juifs en Hollande. Toute sa famille a été déportée au camp de concentration de Ravensbrück. Son père est mort. Sa sœur y est morte. La seule survivante de sa famille, Corrie ten Boom. L'injustice des camps de concentration. Mais quelques années plus tard, quand elle donne une conférence en Allemagne, je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire, il y a elle fait une conférence sur le pardon et il y a là un ancien geôlier de Ravensbrück qui se dirige vers elle à la fin de la conférence et qui se présente à elle et qui lui dit « J'ai fait beaucoup de mal dans ma vie, mais je vous demande de me pardonner. Est-ce que vous pouvez me pardonner ?» Et elle ne le sent pas du tout, ce pardon. Mais le Seigneur, elle prie et le Seigneur lui donne des paroles de pardon pour ce geôlier qui a participé à la disparition des êtres qui lui étaient les plus chers. L'injustice des camps de concentration. Deuxième témoin, Johnny Erickson, Tada, l'injustice du handicap. Cette jeune fille de 17 ans qui, suite à un accident, devient tétraplégique et qui, une dizaine d'années après son accident, dans son fauteuil, peut écrire dans l'épilogue de son premier livre, je cite, c'est Johnny qui le dit, Johnny c'est une femme, hein. « Je peux aujourd'hui louer Dieu pour tout, les rires et les larmes, la joie et la souffrance, tout cela a fait partie de ma croissance dans la grâce de Dieu. » La jeune fille, dit-elle, qui s'affolait devant chaque nouvelle circonstance de sa vie, est maintenant devenue adulte. C'est une femme qui a appris à s'appuyer sur la souveraineté de Dieu, sur l'accompagnement de Dieu. Troisième témoin, Valentin. L'injustice de la violence humaine. Valentin, c'est un beau jeune homme d'1m90 qui jouait au volley, congolais du Congo-Kinshasa, de RDC, et qui reçoit dans les années 80 une balle des soldats de Mobutu, alors qu'il était étudiant à l'université de Lubumbashi. Une balle tirée au hasard. Il est lui aussi paraplégique. Et je rends visite, c'était à Bruxelles, je lui rends visite pendant 2 ans régulièrement, et il me dit à chaque fois, du haut de son fauteuil, « Dieu est grand, Eric ». Et tous les deux, on repart grandis, surtout moi, de ces visites. Dieu est grand, Eric. Témoin de l'injustice de ce monde. Et puis, dernier témoin de ce monde injuste, un dénommé Jésus de Nazareth. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors qu'il mène une vie exemplaire, il termine comme un meurtrier sur une croix. C'est la peine capitale la plus dégradante dans l'Empire romain. Quoi de plus injuste que la crucifixion pour le Fils de Dieu ? Quoi de plus décalé par rapport à notre idéal qu'un Dieu souffrant injustement ? Mais sur la croix, alors qu'il porte tous les péchés du monde, alors qu'il porte toutes les injustices du monde, Jésus va dire « Seigneur, pardonne Dieu, Père ». Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Oui, pardonne-leur ce comportement injuste, pardonne-leur toute leur injustice pour qu'ils puissent en être délivrés et vivre une vie de juste. Ouais, un témoin de l'injustice de ce monde, un témoin à la croix, un témoin mourant à la croix. J'ai lu une citation de Albert Camus qui a écrit un livre qui s'appelle « Les Justes ». Et voilà ce qu'il dit, Albert. « J'ai compris, dit Albert Camus, j'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice. Il fallait donner sa vie pour la combattre. » Dixit Albert Camus. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a pris sur lui l'injustice de ce monde pour nous permettre, et il a combattu jusqu'à donner sa vie pour elle. Lui, le juste, il a donné sa vie pour combattre l'injustice de ce monde et il est ressuscité, il est vivant. C'est un Dieu mourant, mais vivant. Et pour nous permettre d'une vie qui serait désormais entièrement dirigée, tournée vers la justice, où l'on chercherait premièrement le royaume de Dieu et sa justice, comme le dit lui-même Jésus. Alors dans ce monde injuste, on veut suivre l'exemple de Joseph, rester centré sur Dieu, ça c'est l'éthique, la morale. Faire confiance en Dieu, en la souveraineté de Dieu, ça c'est de la théologie. Continuer à faire ce qui est juste, ça c'est la pratique. Et les comprendre, ces situations d'injustice, comme des opportunités de croissance, ça c'est le côté spirituel. Mais on veut surtout vivre dans cet amour de Christ manifesté à la croix qui nous permet aujourd'hui de combattre dans nos vies et dans le monde toutes les injustices. Mais je me dis que dans ce combat, nous sommes bien fragiles, n'est-ce pas ? Je me sens fragile, je me sens tellement faible. Mais Dieu vient nous accompagner dans nos prisons. Il vient délivrer le prisonnier, il vient relever le faible, il vient le couvrir de sa justice.